7h42 minutes. Boulevard 102.1, Reg Against le matin. Moins 13 présentement. Sous les nuages. Faible neige par endroit. Encore une fois. Faites attention à la poudrerie. Il y en a par endroit. Ça peut jouer sur la visibilité en voiture. Donc, poudrerie basse, qu'on m'indique ici. Moins 6 sera le maximum qu'on va atteindre cet après-midi. 2 à 4 cm, tout dépendant des endroits, là, de où vous vous trouvez. Si on parle 2 à 4 cm de neige là, en accumulation, 2 cm additionnels pour ce soir et cette nuit. Demain, jeudi, une faible neige intermittente avec un moins 3 degrés comme maximum. Le soleil est au rendez-vous vendredi pour terminer la semaine à moins 2. Et pour le moment, on nous annonce une fin de semaine plutôt grise. Circulation, Max?
Dans le secteur des ponts, semble-t-il là, que ça peut être assez compliqué avec de la poudrerie des deux côtés du fleuve. Donc, faisons attention à ça. D'ailleurs, route des rivières, là, début de l'accès vers la 20 Est, c'est partiellement travaillé un accrochage. On nous parlait tantôt par texto de 3 véhicules impliqués. Et sur la 40 Est, hauteur de l'avenue Blaise Pascal, la voie droite qui est bloquée par une panne. Et ça aussi, ça cause quand même un bon ralentissement là, justement dans ce secteur-là. Hauteur du Plessis, ça refoule déjà jusqu'à à peu près l'avenue Legendre. Sinon ailleurs, ça va quand même bien. Dans l'actualité, le centre de services scolaires de la capitale fait des demandes d'ajout d'espace plus que jamais, tellement les écoles de Québec débordent d'élèves présentement et ça va continuer de déborder. C'est le Journal de Québec qui rapporte ce matin que 17 projets ont été déposés au ministère de l'Éducation, comprenant la construction d'une nouvelle école et l'agrandissement de 3 autres dans le secteur de Limoilou. Pour l'instant, aucune demande n'a été accepté. C'est un scénario qui est semblable à l'an dernier avec 0 projet qui avait été retenu là, sur plusieurs demandes présentées au gouvernement. Le ministre fédéral de l'Innovation, François-Philippe Champagne, pourrait se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Celui qui serait aussi vivement sollicité par des membres du Parti libéral du Québec ne voudrait rien savoir du palier provincial, mais viserait plus haut à Ottawa. Une source bien informée du Journal de Québec qui a travaillé pour le gouvernement Trudeau indique que M. Champagne serait appuyé par de grands financiers du PLC, Stephen Bronfman et André Desmarais. Et Donald Trump semble plus obsédé que jamais par son envie de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Questionné à ce sujet-là hier, le président américain désigné qui a exclu la possibilité d'utiliser la force militaire pour annexer le Canada, mais s'est montré 100% sérieux en laissant tomber qu'il pouvait utiliser la force économique. Trump en a aussi remis dans les dernières heures sur son réseau Truth Social en partageant 2 photos de cartes de l'Amérique du Nord. Sur la première, on peut voir l'entièreté du continent couvert d'un drapeau américain avec l'en-tête au Canada. Sur la deuxième, on voit United States écrit sur le Canada et les États-Unis là, comme si ça ne formait qu'un seul pays.
Ben oui, parlons-en justement de cette force économique, la menace de Donald Trump contre le Canada avec Gabriel Giguère qui est analyste pour l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Gabriel, bon matin.
Bon matin.
Hey Gabriel, tout d'abord, l'équipe et le trio de Rage Against le matin te souhaitent une magnifique année 2025. Toi et ta famille, santé et bonheur.
Ben merci beaucoup. Bonne année à vous autres aussi.
Merci, merci Gabriel. Sautons directement maintenant dans le vif du sujet là. Donald Trump qui menace d'user de la force économique contre le Canada. On parle ici de la menace du 51e État. Gabriel, jusqu'à quel point les États-Unis peuvent nous faire mal ici au Canada de façon commerciale ou économique?
Ouais, je pense que c'est la question centrale. Hein. On voit Donald Trump qui nous parlait de 10% il y a quelques mois de tarifs douaniers sur l'ensemble des exportations canadiennes aux États-Unis. Et là, on nous parle maintenant de 25%. Ça peut faire très mal. Le Canada, essentiellement, là, va exporter l'année dernière, en 2023, on est déjà en 2025, le temps passe vite, environ 600 milliards de dollars aux États-Unis de valeur en produits. Et ça équivaut à 77% de l'ensemble des exportations du Canada dans le monde. Donc, les États-Unis, c'est de loin notre premier partenaire commercial. C'est le joueur dans lequel le Canada a besoin. Et donc, quand on regarde l'autre côté, parce qu'on se dit, bon, c'est très clair, le Canada exporte massivement vers les États-Unis, mais qu'en est-il des États-Unis?
Ouais.
Et si le Canada, mettons, mettrait la même chose à 25%, ça ferait pas trop aussi mal aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que oui, ça ferait mal aux États-Unis parce que le Canada est la première place également où les États-Unis exportent. Contre, on n'est pas dans la même dynamique, dans les mêmes proportions, à savoir que les États-Unis vont exporter seulement 17% de l'entièreté de leur exportation au Canada. Donc, il y a une asymétrie entre les deux et on comprend que le Canada, ça ferait très, très, très mal à l'économie que d'avoir 25% de tarifs douaniers sur l'ensemble de nos exportations et ça serait pas souhaitable de rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Au final, les Canadiens en sortiraient probablement perdants. C'est pas ça qu'on veut.
Ben, d'ailleurs, j'allais te relancer en te demandant, on peut pas jouer là, à cette guerre-là de « OK, ben, tu nous taxes 25%, puis on fait la même chose, on te taxe à 25%, on sortirait perdant. »
Ben, on peut pas jouer à ça, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est évident, hein, c'est notre premier partenaire commercial, donc on se tirerait vraiment dans le pied. Et si on retourne à la base, en parlant de libre marché entre les deux États, hein, pour le commerce, concrètement, à chaque fois qu'il y a une tarif douanier sur un produit, que ce soit le bois d'œuvre, et ça, on va y revenir, c'est toujours le consommateur qui perd. Imaginez si le Canada dit, parfait, vos véhicules américains, on va mettre 25%. Par exemple, tu vas aller t'acheter un Ford, ou peu importe là, la marque américaine, un GM, tu vas arriver au concessionnaire, il va te coûter plus cher. Donc, même si on regarde ça en matière d'entreprise, peut-être que les manufacturiers automobiles du Canada vont sourire. Par contre, vous, en tant que consommateur, les auditeurs aujourd'hui, quand ils vont aller au magasin, que ce soit à l'épicerie, partout, ils vont le sentir dans leur poche. Il faut quand même rappeler que ces mesures inflationnistes-là, elles se suivraient d'une année comme 2021-2022 où le coût de la vie a été difficile. Donc, d'aller de l'avant avec des mesures protectionnistes, ça nous ferait mal.
Ça nous ferait mal ici au Canada, Gabriel, mais j'imagine que ça peut faire mal aussi aux États-Unis parce que là, tu as abordé le bois d'œuvre, je pense à notre énergie, je pense à d'autres produits là, naturels qu'on exporte. Le pétrole, exactement, qui pourrait faire augmenter drastiquement les factures aussi des consommateurs aux États-Unis.
Exactement. Même si nous, le Canada, on se dit on rentre pas dans cette guerre-là, puis Donald Trump disait non, je persiste et signe, je veux que le Canada devienne le 51e, et là, peu importe, là, ça pouvait sembler loufoque il y a 3 mois, mais ça peut être une réalité aujourd'hui dans le discours. Ce qui va se passer, c'est que oui, notre bois d'œuvre va avoir des tarifs douaniers supplémentaires, on en a déjà un petit peu. Les entreprises canadiennes vont être relativement perdantes. Les consommateurs américains vont être très, très perdants, parce que quand on veut refaire un patio, ça prend du bois, puis ça va coûter beaucoup plus cher pour eux. J'avais fait une étude en 2022 sur la question, et on voyait vraiment que oui, ça va affecter les entreprises canadiennes, il n'y a pas à dire, mais les consommateurs américains vont être très, très affectés, et les seuls qui vont gagner, c'est les entreprises de coupe de bois américaines. Par contre, ceux qui vont faire des meubles aux États-Unis vont quand même payer plus cher leur bois, parce que si on fait venir du bois canadien, c'est parce coûte moins cher. Et donc, c'est un intrant qui est moins dispendieux et vous pouvez vendre votre produit à un prix plus faible. Et donc, encore une fois, ça va se répercuter sur les consommateurs américains. Et c'est toujours ça, hein, une mesure protectionniste comme les 25%. Et là, on dit vraiment, c'est l'ensemble des biens du Canada. C'est de faire mal à sa propre population et je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement ou le prochain gouvernement ne doit pas rentrer dans ce type de guerre en disant « Écoute, moi, je suis plus solide que toi, M. Trump, on va mettre aussi 10, 15, 20 %. » Je pense que c'est tout le monde qui en est coffré et on ne sort pas gagnant de ce type d'approche politique.
Hey Gabriel, j'ai besoin de ton expertise. Le 20 janvier s'en vient assez rapidement. On connaît la menace de Donald Trump sur le 25 % de taxation. Donald Trump, le connaissant, Trump joue toujours plus gros pour probablement avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, d'après toi, de façon économique, côté taxage? Y vises-tu réellement le 25 % de taxation sur tout ce qui est importé, ou il vise quelque chose, il coupe-tu la poire en deux? Qu'est-ce que tu penses qu'il vise, Donald Trump?
C'est une bonne question. Là, on rentre plus au niveau politique. Si je me permets, puis je mets mon petit chapeau politique, ce qu'on voit, c'est probablement qu'on y va dans la rhétorique pour s'assurer d'en avoir plus. Je suis pas sûr qu'on veut vraiment un 25% en toute franchise. Je pense que c'est pour faire peur, pour se mettre en position de supériorité, pour avoir plus de jeu dans les négociations. Je pense pas également que c'est 25% sur tous les produits.
Ouais.
On est plus parce que à la base, encore une fois, si on parle du pétrole, le pétrole albertain qui est envoyé aux raffineries au Texas, je suis pas persuadé que Donald Trump va vouloir mettre 25% sur ce pétrole-là puis envoyer des gens au chômage puis des réductions de salaire au Texas, là, un État qui a voté rouge. Donc, il y a cette dynamique-là également. Maintenant, ça reste difficile à voir le dénouement de tout ça. Est-ce que c'est pour une renégociation de l'ALENA 2.0 de façon favorable? Est-ce qu'on va devoir laisser la gestion de l'offre? Je pense, au final, ce serait bon pour les consommateurs parce que c'est également une structure de politique publique qui vient augmenter le prix pour les consommateurs canadiens des produits laitiers et des œufs et autres. Mais ça reste difficile de voir exactement quel sera l'élément précis qui va permettre aux Américains de sortir grand gagnant. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est oui, on a un déficit commercial avec les Canadiens, on leur envoie des milliards de dollars. La réalité, c'est qu'on envoie des milliards de dollars en valeur d'énergie qui sont raffinés, qui sont utilisés et qui sont shippés après ça à travers le monde. Donc, il faut quand même comprendre que c'est pas une situation où les États-Unis perdent, bien au contraire, je pense. Alors, ça devient un petit peu complexe dans cette situation d'établir clairement ce que Donald Trump veut faire ici.
Chose certaine, en jouant la carte du 25%, Donald Trump veut que ça bouge. Là. Ça, c'est sûr et certain.
C'est évident qu'il faut que ça bouge.
Gabriel, tu as justement mentionné le traité de l'ALENA, puis tu disais, est-ce qu'on va arriver avec un ALENA 2.0? On voit beaucoup Donald Trump travailler dans ce sens-là avec ses menaces. Qu'est-ce qui est bon présentement pour le Canada dans ce traité-là qui est moins bon pour les États-Unis que Trump voudrait modifier, puis jusqu'où on pourrait aller?
Non, je pense qu'un des éléments qui est très, très clair, à mon avis, c'est la question de la gestion de l'offre, où on le sait, on a des producteurs laitiers américains qui veulent développer le marché canadien, on veut envoyer le lait. Il me semble qu'il y a le Wisconsin, si je me trompe pas, mais il y a plusieurs États qui se disent, ben là, c'est le temps d'agrandir le marché. Et le Canada impose de lourds tarifs, hein, simplement sur le beurre, je crois qu'on a 300% de mémoire, et donc, ça vient vraiment restreindre le potentiel commercial pour certaines entreprises américaines, et ça dérange beaucoup les États-Unis. On l'a vu l'année dernière, l'autre année auparavant, que c'était un élément de litige, mais pas juste aux États-Unis, avec la France, avec la Nouvelle-Zélande. Ça a été également un des accroches avec le Royaume-Uni. Bref, c'est quelque chose qui vient gêner beaucoup de partenaires commerciaux avec le Canada, cette fameuse gestion de l'offre. Et pourtant, quand elle a été abandonnée en Nouvelle-Zélande, a permis une grande prospérité. La Nouvelle-Zélande s'est transformée comme pays exportateur au Canada. On n'est pas un pays exportateur de produits laitiers, bien entendu. Et donc, pour dépasser cette dynamique-là et se dire, il faut absolument protéger notre industrie laitière, je pense qu'il faut plutôt élargir le marché également pour nous, ce qui va permettre aux éléments les plus productifs du Québec, ben de conquérir les marchés américains, de faire encore plus d'argent et de profiter justement de cette expansion du marché. Alors, ce serait bénéfique, je pense, pour les Canadiens et les Québécois, pour les Américains. Et donc, ce serait assez gagnant. Malheureusement, quand on voit des projets de loi comme le projet de loi 282, qui à toute fin pratique a tombé avec l'abrogation de la session parlementaire à Ottawa, où le Bloc québécois nous disait « Ah ben il faut plus jamais toucher à la gestion de l'offre, c'est pas bon pour nos producteurs. » Pensons également aux millions, aux dizaines de millions de consommateurs canadiens qui, eux, chaque jour, se rendent à l'épicerie, ont vécu une hausse du coût de la vie et se font dire à toute fin pratique « Voici le prix que vous allez payer parce qu'on n'a pas de concurrence au Canada.
Mm-hmm. » Est-ce qu'un gouvernement conservateur, justement de Pierre Poilievre, ça serait une carte qu'on pourrait jouer avec Donald Trump? T'sais, parce que je me souviens, dans la course à la chefferie conservateur, Maxime Bernier était justement pour modifier la gestion de l'offre. Est-ce que Poilievre était sur le même rythme de pensée? Je pense, de mémoire, je crois pas. Hein?
Mais je suis pas persuadé. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons également politiques. On le sait que c'est pas nécessairement la chose la plus sexy en matière de politique publique de dire, ben écoutez, évidemment, ce qui va se passer avec si on abolit la gestion de l'offre, c'est qu'il va y avoir des entreprises qui vont faire très, très bien, hein, qui vont prendre beaucoup d'ampleur, qui vont pouvoir conquérir les marchés américains, mais il va en avoir également des moins productifs qui vont tomber à toute fin pratique, puis il va y avoir une réallocation des ressources, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans un libre marché où la concurrence prime. Donc, je suis pas encore persuadé. Par contre, est-ce que c'est une impossibilité? J'irai pas jusque-là parce que, bien entendu, les prochains mois nous diront quelles sont les intentions de Donald Trump et quelles seront leurs demandes très concrètes. Donc, ça reste dans les cartons, mais je miserai pas sur cette éventualité.
Gabriel Giguère va faire un jeu de rôle pour terminer. Tu fais partie de la délégation qui va négocier dans les, j'allais dire, prochaines semaines, mais c'est clairement dans les prochains jours. La date butoir, c'est le 20 janvier. Tu dois négocier. Tu fais partie de la délégation qui négocie avec l'équipe Trump par rapport à cette fameuse taxation de 25 %. Qu'est-ce que le Canada doit faire? Comment on doit réagir ultimement à cette menace?
C'est très difficile. C'est très, très difficile, là. Je voudrais pas être dans ces souliers-là, en toute franchise, là. Le jeu de rôle, je pense que j'aimerais ça être du côté de Donald Trump cette fois-là. Non, alors, plus sérieusement, là, je serais pas serein, puis je prendrais 2-3 cafés, là, parce que, en toute franchise, c'est ça qui se passe, là. 25%, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être ferme, mais tu veux pas rentrer dans une guerre commerciale non plus. Donc, okay. Tu vas pas lui dire, écoute, si c'est 25%, moi aussi, je vais le faire. Non, non. C'est pas la stratégie à faire. Puis, étant donné mes positions de politique publique, moi, j'irais de l'avant en disant, écoutez, là, on rentre pas dans cette guerre-là, puis on laisse faire la gestion de l'offre. On le sait que ça bloque vos marchés, puis de toute façon, c'est pas nécessairement bon pour les Canadiens et les Canadiennes. Je dirais pas ça comme ça, parce que je veux qu'ils pensent qu'il a gagné, là, on s'entend, là, Et lui aussi veut penser qu'il a gagné, puis dans les médias, il va vouloir le dire qu'il a gagné, mais en réalité, c'est comme ça que j'irais. Simplement pour les Canadiens, puis également pour les Américains, là, je pense que ça calmerait le jeu, mais encore une fois, ça n'est qu'un jeu de rôle, je ne serai pas à la table. Heureusement, j'ai envie de dire.
Non, mais Gabriel, j'adore ta stratégie. Il faut trouver une façon qu'on en sorte, fort c'est probablement ça. Gagnant, mais en même temps que Donald Trump puisse annoncer sur les réseaux sociaux, j'allais dire dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux, oui. Qui a gagné dans cette négociation-là.
Exactement, puis Elon Musk qui va partager pour dire qu'il y a... On comprend la dynamique. Ouais. Là.
Tellement. Gabriel Giguère, qui est analyste pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, merci infiniment pour l'analyse de ce matin. Toujours un plaisir de t'avoir à Rage Against le matin.
Merci à vous, on se parle bientôt.
Absolument, à bientôt, cher ami.
Salut.
Gabriel Giguère, toujours vraiment intéressant et le fun de jaser économie. Avec Gabriel.
Oui, exactement. Puis très intéressant de savoir qu'au du côté du pétrole, du côté du bois d'œuvre, là, Gabriel n'a pas parlé, mais vraiment dans l'Est des États-Unis aussi, c'est un gros enjeu. Donc, ça pourrait faire mal éventuellement à Donald Trump s'il impose ce fameux 25%-là. À long terme, il pourrait avoir des pertes d'emploi puis une hausse de l'inflation aux États-Unis. S'il le fait, donc lui aussi est à risque de ce côté-là. Puis on revient à ça, à cette fameuse gestion de l'offre-là. C'est pas la première fois qu'on en entend parler, que c'est comme je vais le dire comme ça, là, la carte qu'on possède pour pas se lancer dans une guerre économique, de dire, ben regarde, on va l'abandonner, on va permettre au marché américain de s'introduire au Canada. Je sais que ça fait pas du tout l'affaire là, de producteurs laitiers, cependant, ouais. On en a déjà parlé, on a plusieurs auditeurs là-dedans. Donc, des négociations qui sont à suivre, mais des négociations qu'on le rappelle, sont faits à armes inégales parce qu'au Canada, présentement, le Parlement n'a jamais été aussi faible.
Et qui vont se faire relativement rapide parce que je vous rappelle que la date butoir là, qui a été établie par Donald Trump, c'est le 20 janvier. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est de la taxation de 25 %. Donc, on a parlé en long et en large du côté économique là, de cette menace-là de Donald Trump face au Canada avec Gabriel Giguère. Dans l'heure de 8, dans une vingtaine de minutes à peu près, on va avoir avec nous en studio l'excellent vulgarisateur d'actualité, Farnel Morissette. Et là, on va toucher plutôt le côté historique, légal, constitutionnel de l'annexation
oui.
Du Canada aux États-Unis. Ça pourrait-tu se faire? T'sais, OK, c'est une menace. T'sais, OK, c'était une blague, mauvaise blague, menace. Mais tu sais, à la base, y a-tu un fond de possibilité là-dedans?
Oui, puis est-ce qu'il y a un angle mort pour Donald Trump? Parce que là, on l'a bien compris au niveau économique, il y a l'angle mort de... Le pays se lance dans une inflation, même si on fait très mal au Canada économiquement.
Donc, Farnel Morissette avec nous dans à peu près une vingtaine de minutes. Courte pause à Rage Against le matin. La suite de l'émission dans quelques minutes. Rage.